Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel est Martin Garagnon, porte-parole de Renaissance, le parti fondé par Emmanuel Macron, qui à l'époque s'appelait En Marche. Bonjour Martin Garagnon.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Soyez le bienvenu, l'actualité est marquée par l'intervention directe le week-end dernier des États-Unis en Iran, suivie des frappes iraniennes sur deux bases américaines du Qatar, et enfin par l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu très fragile, un cessez-le-feu déjà violé par l'Iran et Israël. Emmanuel Macron et plus globalement l'Europe ne sont-ils pas isolés sur la scène internationale face à cette guerre entre l'Iran et Israël et à ces rebondissements?
Comme vous venez de le dire, effectivement, on voit bien que finalement la voix de la France et la voix de l'Europe dans son ensemble aurait dû être écoutée bien plus tôt, parce que vous avez évoqué à l'instant ce cessez-le-feu qui a été annoncé un peu en grande pompe hier, comme si M. Trump était le faiseur de paix au Moyen-Orient, et qui, quelques heures après à peine son annonce, a déjà été violé à maintes reprises. Nous, ce qu'on a rappelé, notamment par la voix du ministre des Affaires étrangères hier soir, c'est que ces frappes-là sont dépourvues d'une base légale, qu'elles créent en plus un certain précédent, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire jurisprudence à l'avenir, et qu'en plus elles sont contre-productives. Il est souvent malheureusement plus facile de faire la guerre que de faire la paix, et la voie des armes n'est certainement pas celle que nous privilégions, nous, en tant qu'Européens et en tant que Français. Donc oui, malheureusement, la voie de la France et celle de l'Europe plus généralement est amoindrie, non pas parce qu'elle ne porte plus, mais parce qu'elle a souvent raison, et c'est tout l'enjeu aussi des questions plus générales de souveraineté européenne, de réaffirmer une voix forte en Europe. Je rappelle que la France est désormais la seule et unique puissance nucléaire européenne au sein de l'Union européenne depuis le retrait du Royaume-Uni, et donc la France a un rôle particulier à jouer aussi au sein de cet ensemble.
Et justement, comment faire pour que la raison, dites-vous, l'emporte, quand Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, souligne l'illégalité des frappes américaines le week-end dernier en Iran? Quelle est la marge de manœuvre de Paris?
Elle est mince malheureusement, parce qu'elle fait face à beaucoup d'intérêts divergents, mais malheureusement ce n'est pas non plus une première. Je me rappelle de la position de la France qui était celle exprimée notamment par la voix du ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. de Villepin, dans l'enceinte des Nations Unies, au début des années 2000, lorsque la guerre en Irak a été déclarée notamment par les États-Unis. Nous étions le seul pays, on va dire d'envergure, en tout cas en siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'était opposé fermement à cette guerre. Et l'histoire a donné raison à la position de la France. Une nouvelle fois, il est parfois dur de ne pas être écouté, alors que nous sommes convaincus que le chemin est celui de la négociation et celui de la discussion, et non pas celui des armes.
Mais à l'époque, on s'en souvient, la voix de la France, hein, vous parlez de la période pendant laquelle Dominique de Villepin était le ministre des Affaires étrangères. On se souvient bien entendu de son discours devant l'ONU contre l'intervention de la France en Irak. À l'époque, la voix de la France portait davantage au Proche et au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'arrive cet affaiblissement?
Vous savez, la voix de la France porte toujours, mais elle ne portait guère plus à l'époque, puisque malheureusement nous n'avions pas été écoutés, et que la guerre a quand même eu lieu, entraînant dans son sillage des centaines de milliers de victimes civiles innocentes.
Mais elle marquait les esprits en tous les cas.
Oui, mais comme marqueront les esprits la position que tient Emmanuel Macron avec beaucoup de fermeté, mais pas uniquement au Proche-Orient d'ailleurs, parce que je rappelle que lorsque la Russie a commencé à envahir l'Ukraine, Emmanuel Macron a été le dernier président a continué à garder un lien direct avec le président russe Poutine, ce qui à l'époque lui avait été reproché, mais ce qui montre aussi tous les efforts qui sont déployés par la France, pas uniquement au Moyen-Orient, mais partout où l'exige la situation dans le monde, de maintenir un dialogue, d'essayer de sauver la paix, parce qu'une fois de plus, c'est aussi la grandeur de notre pays d'avoir connu les affres de la guerre, les affres de la défaite aussi, et d'avoir une mémoire de ces situations, et de connaître aussi le prix du sang dans ces moments-là, qui est pour beaucoup anecdotique, visiblement, mais qui ne l'est pas pour la France. Et cette voix-là, elle doit continuer à peser, parce qu'elle résonnera dans l'histoire au temps long. Et malheureusement, à l'heure actuelle, elle est encore assez peu écoutée. Ce n'est pas faute des efforts qui sont déployés à la fois par le président, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées, l'ensemble du corps diplomatique en France, qui fera un travail au quotidien extrêmement difficile, mais qui, j'en suis persuadé, aura gain de cause, et en tout cas sera salué, contrairement au faucon qui s'exprime trop librement. Voilà, donc il nous faut, pour la France en tout cas, faire taire les armes et faire taire la voix de ceux qui cherchent à tout prix à les utiliser.
Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a souligné que ce conflit ne devait pas éclipser la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron a redit ce mardi la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza et de reprendre l'aide humanitaire. N'est-il pas urgent, dans ce contexte, justement, de reconnaître un État palestinien ?
Et le ministre a raison de rappeler effectivement les drames qui se jouent au quotidien aussi à Gaza, parce qu'on est malheureusement à une époque où finalement les drames éclipsent assez vite ceux de la veille. Et ce qui se passe en Iran est d'une gravité exceptionnelle, mais ne doit pas pour autant nous faire oublier le drame aussi que vivent des centaines de milliers de civils à Gaza, qui sont affamés, qui sont privés des soins les plus élémentaires, qui sont finalement assez délaissés et qui, pour l'immense majorité, payent le prix d'une guerre qu'ils ne veulent pas et dont ils sont les premières victimes. Donc ça, c'est un véritable sujet. La question de la reconnaissance d'un État palestinien, il a été évoqué, puisque je vous rappelle qu'un sommet devait avoir lieu justement à New York il y a quelques jours à peine, qui avait dû être annulé suite aux nouveaux événements qui sont déroulés en Iran, donc la frappe des sites iraniens par l'armée de l'air israélienne.
Un sommet qui devait être dirigé par la France et l'Arabie saoudite, et il a donc été reporté.
Oui, il a été reporté pour des tas de raisons, notamment des raisons simplement logistiques et sécuritaires, qui fait qu'un certain nombre de participants ne pouvaient plus se rendre physiquement à ce sommet, et donc il a été bien logiquement reporté. Mais le sujet n'en est pas pour autant toujours d'actualité. Il est évident qu'une solution, et c'est là aussi tout l'honneur de la France de défendre cette position depuis des années et des années, puisqu'il y a une constance dans la diplomatie française sur ces questions-là, la reconnaissance d'un État palestinien s'inscrit dans une logique de sortie politique de la crise au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Donc c'est une évidence. Néanmoins, je rappelle que Emmanuel Macron, puisque ça lui a été aussi reproché, à tort, de mettre le sujet sur la table, Emmanuel Macron avait évoqué cette possibilité assortie d'un certain nombre de conditions qui sont extrêmement claires, qui sont notamment la démilitarisation de la bande de Gaza, qui sont évidemment le départ du Hamas du contrôle du territoire de Gaza.
Ce qui a été approuvé par le président palestinien Mahmoud Abbas, oui.
Voilà, mais Mahmoud Abbas, il ne vous aura pas échappé qu'il n'a absolument pas la main sur l'enclave de Gaza, et ce depuis les élections du milieu des années 2000. Donc il faut pouvoir maintenant arriver à une solution. Et une des dernières conditions essentielles qu'Emmanuel Macron avait posées sur la table, c'était aussi la reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël, puisque la France défend une position à deux États, ce qui implique aussi deux territoires, de souveraineté et une coexistence pacifique. L'issue de la crise, elle passera par l'intégration régionale d'Israël. Et donc pour cela, c'est aussi dans la continuité des accords d'Abraham, ce qui avait été évoqué, c'est-à-dire une reconnaissance bilatérale aussi de l'État d'Israël avec ses voisins arabes. Tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance d'État à État, effectivement, une solution aura du mal à émerger, si ce n'est des options militaires. Et la France, évidemment, sera toujours opposée à ces options militaires, parce qu'on voit bien, non seulement elle ne règle rien sur le long terme, mais elle cause des drames humains au quotidien qui font des centaines de milliers de victimes, parce qu'on parle de Gaza, mais on pourrait aussi évoquer ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé au Liban, ce qui se passe encore au Yémen, ce qui se passe évidemment maintenant en Iran. Donc on voit bien qu'il y a une solution qui ne peut pas être uniquement microscopique, c'est-à-dire concernant un seul des aspects de l'équation.
Martin Garagnon, porte-parole de Renaissance, le parti présidentiel. L'actualité, c'est aussi le sort de Boualem Sansal. Le parquet algérien a requis ce mardi 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain franco-algérien lors d'une audience devant la cour d'appel d'Alger. L'écrivain fait l'objet d'une lutte diplomatique entre l'Algérie et la France. Vous demandez une grâce de la part du président algérien.
Je demande la libération immédiate sans condition de Boualem Sansal, qui est non seulement est un grand écrivain, mais s'il n'avait pas cette qualité-là, n'en serait pas moins éligible à une libération immédiate. C'est une personnalité franco-algérienne qui est victime finalement d'un règlement de compte qui dépasse totalement sa personne. Et j'ai envie de vous dire, quelles que soient les modalités de sa libération, je les souhaite, je les appelle de mes voeux. On veut la libération de Boualem Sansal, que ce soit par une grâce présidentielle, peu importe. Il faut que Boualem Sansal soit libéré. C'est un homme âgé qui est malade, qui est souffrant, et il faut aussi regarder les motivations finalement de son arrestation et de sa condamnation. qui peuvent sembler dérisoires. Mais vous savez, là aussi, le Quai d'Orsay et le ministre Barrot se battent au quotidien, non seulement pour évidemment Boualem Sansal en Algérie, mais je rappelle que nous avons deux ressortissants français qui actuellement croupissent dans les geôles iraniennes, prisons d'ailleurs qui sont aussi victimes de bombardements, donc Cécile Kohler et Jacques Paris. Donc partout où nous avons des concitoyens qui sont détenus arbitrairement, la France réclame leur libération et agit. Il ne s'agit pas uniquement de vociférer ou de jouer un bras de fer. Le but final, c'est la libération de nos compatriotes.
Un autre dossier, Martin Garagnon, l'échec du conclave sur les retraites. Syndicats et patronats se sont renvoyés la responsabilité de l'impasse. Cet échec, c'est celui du Premier ministre.
Je ne pense pas que l'on puisse imputer l'échec de cette conciliation à François Bayrou. Au contraire, François Bayrou a donné sa chance au dialogue social, a fait vivre la démocratie sociale. Il a été assez souvent reproché au président Macron de manière assez injuste, finalement, de ne pas laisser les partenaires sociaux se mettre autour d'une table et de décider pour les sujets qui pouvaient les concerner directement. Ça a été tenté, avec des mois de conciliation possible, des discussions, l'appui d'experts neutres, on va dire politiquement, qui apportaient leur expertise statistique sur ces sujets-là. Et malheureusement, le constat, c'est que les discussions n'ont pas abouti de manière satisfaisante. Donc c'est avant tout, à mon sens, l'échec d'une discussion sociale qui méritait bien davantage que des postures. On a vu d'ailleurs que ce conclave a été pour certains l'occasion simplement d'incarner une posture et non pas de discuter de manière désidéologisée et apaisée. Et au final, ce sont les Français qui risquent de trinquer parce que la question des retraites, elle est toujours très sensible. Elle mérite une réforme bien plus ambitieuse que celle qui peut être portée à certains moments, parce que lorsqu'on a des discussions qui sont à la marge, finalement, là aussi pareil, on recule pour mieux citer, on ne règle pas de manière pérenne une situation qui, à terme, on le sait, elle est statistique, elle est démographique, est explosive. Donc si on veut vraiment, sincèrement, préserver notre modèle social, là aussi c'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que le système social dont nous bénéficions à l'heure actuelle, si on le valorise et qu'on souhaite le transmettre aux générations à venir, il faut pouvoir le pérenniser dans sa durée. Or, lorsque vous avez un déficit qui est structurel et qui va aller en s'aggravant année après année, ça n'est pas une solution pérenne. Et donc, c'est faire peser sur les générations à venir le coût de nos lâchetés actuelles.
Merci, Martin Garagnon.
Avec plaisir.
Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Renaissance, le parti présidentiel. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Pluriel.